Mare Nostrum sur Radio Zinzinex.
Des mondes antiques aux migrants d'aujourd'hui.
L'actualité, la culture, les sciences sociales.
Dans l'ère méditerranéenne.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, vous êtes sur Radio Zinzinex et vous écoutez l'émission Mare Nostrum. Cette émission est préparée et présentée par Raymond avec Fabrice à la technique. Aujourd'hui, c'est le 19e numéro de notre émission et nous allons nous intéresser à l'exposition ouverte au MUCEM depuis le 24 avril et qui se terminera le 10 septembre. Cette expo s'appelle Or, mot très bref qui claque comme un éclat de ce métal, mais ô combien évocateur. Alors nous recevons pour cette évocation quelqu'un qu'on connaît déjà, qu'on a déjà eu l'occasion de recevoir ici, Myriam Morel-Deldal. Bonjour.
Bonjour.
Donc vous êtes toujours conservateur en chef du patrimoine au Musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, le MUCEM, après avoir dirigé le Musée d'Histoire de Marseille. Vous avez été commissaire de plusieurs expositions notables au MUCEM, Volubilis, Migration divine, Connectivité, et vous avez publié plusieurs études sur l'histoire de Marseille et de la Méditerranée. Nous avons également invité Jean Roche Bouillet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes docteur en histoire de l'art contemporain et conservateur en chef, responsable du secteur art contemporain au MUCEM depuis 2011. Vous avez été aussi commissaire de plusieurs expositions à la Galerie d'art du Conseil général des Bouches-du-Rhône à Aix-en-Provence, laquelle galerie est hélas fermée aujourd'hui. Vous avez également travaillé à Sèvres, à la Cité de la Céramique, au Musée RAT, au Musée d'art et d'histoire de la ville de Genève. Au MUCEM, vous avez été commissaire ou commissaire associé des expositions des artistes dans la cité, Food, Stéphanos Tsivopoulos, History Zero, en 2014, d'âger la date, J'aime les panoramas, en 2015, Albanie, 1207 km, en 2016, Graf en Méditerranée, en 2017, et bien sûr, avec Myriam Morel-Deldal, Or, en 2018. Donc, cette exposition, moi j'ai envie de commencer notre entretien avec ce magnifique tableau qui ouvre l'exposition, qui s'appelle « The Treasure Room », qui est donc un tableau de Gilles Barbier, et qui est une merveille absolue, une gouache d'une très très grande qualité. Alors, est-ce que c'est bien l'introduction de cette exposition ?
Oui, c'est bien de commencer par cette œuvre de Gilles Barbier, puisque c'est effectivement le point de départ de notre exposition, si ce n'est de notre réflexion. C'est un grand tableau assez monumental qui en met plein les yeux dès les premiers pas qu'on peut faire dans cette salle d'exposition et qui est effectivement une accumulation de trésors, de très beaux objets réalisés en or, en pierres précieuses pour la plupart d'entre eux, et qui témoigne de ce travail un peu encyclopédiste qui est celui de Gilles Barbier, qui va chercher des informations, de la documentation, qui a passé beaucoup de temps dans le début de sa carrière à reproduire par exemple des pages de dictionnaires avec à la fois le texte mais aussi les illustrations qu'on peut trouver dans les dictionnaires. Et là, pour cette œuvre, il est allé sur Internet tout simplement à la recherche de tous ces objets très, très beaux, très fastueux, réalisés en or, pour les rassembler comme dans une forme de sainte conversation dans ce grand tableau. Où ils se retrouvent voisinant les uns les autres alors qu'ils viennent de provenances très, très différentes. Ce qui nous intéressait dans ce tableau, c'est à la fois le côté magnifique de tous ces objets, le fait qu'on en ait plein les yeux dès les premiers pas dans l'exposition, et en même temps le fait que ce tableau ressemble beaucoup à une sorte de vanité, c'est-à-dire que tout ça c'est magnifique, mais c'est aussi finalement très peu de choses, puisque c'est simplement quelques grammes de peinture sur du papier, puisque toute cette œuvre a été réalisée à la gouache. Donc c'est vraiment la technique la plus pauvre de la peinture, qui représente les objets qui sont peut-être considérés comme les objets les plus riches de l'histoire ou de l'histoire de l'art. Et donc ce contraste entre le très pauvre et le très riche nous semblait assez bien convenir pour une œuvre d'introduction de cette exposition, où on a essayé justement de renverser un certain nombre nombre de clichés qui peuvent exister autour de ce matériau. L'or, c'est évidemment ce qui fait rêver, ce qui fait fantasmer, ce qui a beaucoup de valeur, mais c'est aussi, en retour, un matériau très, très simple, qui nous touche tous, pour lequel on peut raconter des histoires très intimes, très personnelles. Et donc, il y a aussi toute cette dimension très humaine qui nous semblait très importante pour cette exposition.
Et moi j'ai envie de poser la question à l'historien de l'art que vous êtes. Je trouve qu'il y a un éclat extraordinaire avec la gouache. J'ai jamais vu ça avec une gouache, un tel éclat, une telle lumière dans un tableau.
Bah ça, c'est ce qui est absolument merveilleux avec la peinture, c'est que on peut faire croire tout ce qu'on veut grâce à quelques pigments en fonction de la manière dont on l'utilise, si on veut le rendre plus ou moins brillant, si on veut imiter plus ou moins la photographie. Et ce qui est intéressant avec l'œuvre de Gilles Barbier, c'est que d'une certaine manière, c'est le prolongement des grandes vanités du 17e, 18e siècle, où les peintres recherchaient aussi la représentation de ces objets très fastueux, avec des matières particulièrement difficile à restituer, comme l'or qui est brillant, donc il faut arriver avec de la peinture à rendre compte d'une matière qui est fuyante et qui est difficile à concrétiser, à matérialiser. Et donc là aussi, cet héritage des grandes vanités classiques est intéressant à discerner dans cette œuvre de Gilles Barbier. Donc effectivement, oui, il y a ce côté, on arrive avec les moyens les plus sommaires, avec la peinture qui est peut-être la technique la plus pauvre de la peinture, à rendre compte de quelque chose qui est effectivement très, très fastueux, très brillant et qui donne cette illusion qu'on est face à une photographie.
Ah oui, absolument. J'y suis resté un bon moment devant, un peu épaté par la qualité de cette œuvre. Alors, cette exposition, vous en avez eu l'idée, parce que quand même, faire une exposition sur l'or, c'est quand même particulier de choisir comme ça un matériau qui est exceptionnel. Et comment en avez-vous eu l'idée ? Vous aviez déjà des pièces ou vous êtes parti de rien ou... Non, pas particulièrement.
Plutôt parti de rien.
Plutôt parti de rien.
On est parti d'une proposition d'un collègue, en fait, qui souhaitait parler de l'or dans l'Antiquité. Et ce projet a évolué au gré des rencontres entre différents collègues. Et il s'est trouvé que, justement, comme le MUSAM est un musée de société, on a assez vite considéré les uns et les autres qu'on pouvait traiter le matériau or sous différents angles transversaux qui permettaient de parler de la manière dont on parle de l'or, où on représente l'or, on utilise l'or, où on symbolise l'or à toutes époques, à l'époque antique et à l'époque contemporaine. Donc très vite, ce sujet est devenu un sujet de société transversale qu'on a traité à la fois avec nous-mêmes à l'intérieur du MUSAM en tant que responsable d'art contemporain ou historien, ce qui est mon cas, et d'autres collègues extérieurs, les commissaires, ce qu'on appelle les commissaires extérieurs, qui sont plus spécialisés, l'un dans l'Antiquité, l'appréhension de ce matériau dans la réalisation d'œuvres antiques, et l'autre en tant que commissaire d'exposition. Donc on a croisé nos regards à la fois de chercheurs, de curateurs, de sociologues et d'historiens et d'historiens de l'art, et trouver des croisements assez qui nous ont paru finalement assez évidents. Et puis c'est à partir de là, du consensus sur le projet, que nous avons commencé à chercher les œuvres.
Peut-être juste donner les noms de nos deux commissaires, oui, parce que là, on est tous autour de la table. Mais donc, il s'agit de Philippe Joquet et de Marcel Tavé, qui ont donc été co-commissaires, comme nous deux, de cette exposition.
Oui, c'est vrai, il fallait quand même le citer, vous avez raison. Alors, en cheminant dans cette exposition, on va essayer de le faire d'ailleurs ensemble. Moi, j'ai eu l'impression qu'on passait donc par trois, au moins trois étapes, voire quatre, de ce produit, de ce matériau. Il y avait un peu l'or du quotidien au départ, au démarrage de l'exposition, enfin à peu près. Vous allez l'évoquer, je vais pas vous prendre la parole. Après, il y a l'or qui est travail et de l'art avec l'intervention des artistes, et puis toute la symbolique. Alors, on va essayer quand même de commencer par l'ordre du quotidien. Moi, la première salle m'a bien intéressé, avec en particulier ce qui concerne le monde piété. Je trouvais ça intéressant. Racontez-moi cette histoire qui est si intéressante.
Alors, c'est vrai qu'on démarre l'exposition avec ce qui est en quelque sorte une sorte de fil rouge qui est déroulé tout au long du parcours grâce à une commande qui a été faite par le MUCEM à deux artistes irlando-britanniques mais qui vivent à Marseille, qui s'appellent Gaetan and Miles. Ça, le point de départ de cette commande, c'est quand on a commencé à réfléchir à ce sujet, à cette possibilité de parler de l'or, non pas dans sa dimension de trésor, de matériaux fastueux, mais aussi dans sa dimension de matériaux très, très humains, matériaux qui permettent de raconter des histoires intimes, matériaux qui est aussi extrêmement fluide, qui a cette capacité à être fondu, refondu, etc. En tant que commissaire d'exposition, on se demande comment est-ce qu'on va pouvoir rendre compte de ces aspects-là, qui sont évidemment beaucoup moins faciles à montrer qu'une succession d'objets tous plus beaux les uns que les autres. Et donc, on a évoquer plusieurs possibilités, le fait peut-être de faire une collecte d'objets plus modestes, mais on s'est aussi assez vite dit que des artistes pouvaient être intéressés par cette problématique, et donc on a pris contact avec Gaetan and Miles, qui sont habitués dans leur travail à aller chercher des histoires auprès des gens qui les intègrent à leur travail d'artiste, et ils ont complètement joué le jeu, complètement compris le propos de l'exposition, et ils ont décidé de faire un travail spécifique sur le monde piété de Marseille, en consacrant la totalité de leur budget de production au rachat d'un certain nombre d'objets en or. Et grâce à la collaboration avec le monde piété, ils ont pu retrouver les anciens propriétaires de ces objets, qui les avaient donc déposés puis perdus au monde piété. Et donc les propriétaires qui ont ainsi été retrouvés ont accepté de raconter l'histoire de ces objets. Et donc les artistes ont réalisé cette œuvre qui se décline donc en 15 petites boîtes dans lesquelles se trouvent aujourd'hui les objets en or, accompagnés de l'histoire de ces objets. Donc c'est vraiment une œuvre très, très intéressante pour nous, parce qu'elle donne cette dimension très, très humaine, très réaliste, très intime. Encore une fois, de ce rapport que tout un chacun peut avoir avec l'or, qui est à la fois un matériau précieux, mais qui peut être aussi un matériau identitaire, qui nous raccroche à une histoire familiale, à l'histoire d'un pays, à l'histoire d'un événement. Et donc c'est tous ces aspects-là qui sont racontés à travers ces micro-histoires dans lesquelles on peut entrer grâce à Gaetan and Miles.
Oui, c'est vraiment très très émouvant, ces petites boîtes avec à côté, brièvement résumé, l'histoire de ces bijoux. Et alors, que vont devenir ces bijoux à la fin ?
Eh bien, la belle chose qui va avec l'exposition et avec l'esprit de l'exposition, c'est qu'effectivement, au démontage de l'exposition, ces bijoux vont être rendus aux personnes qui les avaient déposés au monde piété, et donc offerts, donnés. C'est-à-dire que là, on efface la dette. Et c'est très, très joli comme histoire. Elle rentre vraiment dans tout le fil de cette générosité que les artistes ont apportée en composant leur récit et leur œuvre.
Ah oui, c'est vraiment une très belle histoire. Je vais vous en faire écouter une autre avec une petite interruption musicale, avec un extrait de La Vie parisienne, que vous connaissez peut-être. Ce sont donc c'est la chanson donc du Brésilien qui est très connue.
Je reviens encore deux fois, je suis venu déjà. J'avais de l'or dans ma valise, des diamants à ma chemise. Combien a duré tout cela? Le temps d'avoir 200 amis et de mes 4 ou 5 mètres, 6 mois de galantes ivresses. C'est plus rien en Paris, Paris. En 6 mois, tu m'as tout raflé. Et puis vers ma jeune Amérique, tu m'as pauvre mélancolique, délicatement emballé. Mais je brûlais de revenir et là-bas, sous mon ciel sauvage, je me répétais avec rage une autre fortune. On mourit. Je ne suis pas mort, j'ai gagné tant bien que mal de somme folle. Je viens pour que tu me voles tout ce que là-bas j'ai volé. Tout ce que là-bas j'ai volé, tout ce que là-bas j'ai volé, oh, Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, 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 je te reviens encore. Hourra, 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 je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux coco. Hourra, 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 j'apporte à vos connards toute une fortune à croquer. Le pigeon vient plumer, plumer. Prenez mes dollars, mes banknotes, maman.
Alors là aussi, c'est l'or du quotidien, mais un drôle de quotidien, ce Brésilien qui, bien sûr, n'est pas brésilien puisqu'il vient de, France et il revient à Paris pour claquer tout ce qu'il a gagné au Brésil d'une façon peut-être pas parfaitement honnête, bien sûr. Et ça nous introduit dans cet or du quotidien à la convoitise, à la violence de ce métal avec les chercheurs d'or, etc., etc. Vous devez avoir des choses à nous dire là-dessus.
Il est peut-être allé, puisqu'il revient du Brésil, il est peut-être allé dans une mine d'or au Brésil, comme ces mines d'or sont représentées dans l'exposition par les photographies de Salgado, par exemple. Voilà. Donc, ce sont des lieux effectivement propices à ces ruées vers l'or qui ont envoyé des milliers et des milliers de personnes à la recherche de quelque chose de vain, à quelque chose dont on pense que ça va être effectivement la fortune vite gagnée. Et ça, ça rentre dans la première partie de l'exposition où on parle de l'exposition de l'or, davantage comme un or qu'on veut amasser pour soi-même, enfermer, plus individuel pour avoir une vie meilleure, et pour cela on est prêt à faire tout et n'importe quoi, écraser son prochain, et beaucoup d'œuvres à la fois antiques et contemporaines donnent des exemples de ce sentiment premier. Ce qu'on a voulu dire dans cette première partie de l'exposition, c'est renvoyer au cliché que chacun a dans toutes les couches de la société. Quand on parle d'or, on pense au magot, on pense au trésor et on pense à la quête de l'or, donc à toute cette dimension très individualiste, la fortune pour soi et au mirage de cette fortune, c'est-à-dire qu'on croit effectivement, et donc cet or est aliénant. On y va, on oublie, au nom de l'or, on est capable de tout faire. Et pourtant, ce n'est pas faute d'avoir des exemples très anciens dans la mythologie grecque avec l'histoire de Midas, le mythe de Midas, ou d'autres plus récemment, ou dans la Bible avec le veau d'or, ou des exemples très, très bien connus de chercheurs d'or, de la ruée vers l'or, le roman de Sandras. Or, l'or, effectivement, qui raconte ses fortunes engagées, perdues et recommencées toujours dans cette vanité, comme disait Jean-Roch tout à l'heure, et qui est destructrice de l'homme. C'est vraiment une récurrente dans le temps.
Oui, moi j'avais retenu là, dans la visite, à un moment donné, quelqu'un a dit, je ne me souviens plus lequel des commissaires, a dit que l'or, on le montre, on le cache. Hein, c'est un petit peu ça, hein, le côté assez surprenant de ce métal qui a à la fois qui a un peu ces deux visages là, où on le montre, on l'étale, etc., ou on le cache, on n'en parle pas. C'est un peu ça la particularité de ce métal. Donc violence, l'or du quotidien. La deuxième thématique qu'on rencontre en se promenant cette exposition, c'est l'or travaillé.
Oui, c'est l'or plastique, c'est un matériau, une matière première que l'on peut fondre et transformer à très peu de degrés de fusion. Donc ça permet toutes sortes de transformations, à la fois dans l'Antiquité, aussi dans le quotidien, dans des métiers qui ont disparu, et aussi dans l'art contemporain, pour parler très rapidement de la période antique. Cela permet des prouesses absolument inattendues et inouïes. En particulier, on a réalisé un film, une vidéo dans deux ateliers à Venise. L'atelier du dernier batteur d'or à la main et les ateliers de Verrier, les ateliers Orsini à Venise, qui continuent à fabriquer des mosaïques, des tesselles de mosaïques à feuilles d'or qui rentrent entre deux couches de verre et qui vont attraper la lumière, justement, et qui est la maîtrise d'un savoir-faire déjà connu dans l'Antiquité, dans la période tardive, qui aujourd'hui n'est pas perdu mais réservé à des restaurations représentation, justement. Donc, on a différents aspects de représentation de ces savoir-faire, en particulier l'or utilisé sous forme de poudre dans d'autres métiers qui ont également disparu, comme ceux des doreurs dans les collections du MUCEM, que Jean-Roch a particulièrement étudié, justement.
Ben oui. Oui, parce que on peut
les
passer
de vitres, de boutiques.
Oui, parce qu'on passe facilement des artisans aux artistes.
Totalement, oui. Là, oui. Dans cette section en particulier, oui.
Oui, effectivement, le MUCEM a cette chance d'avoir des collections très importantes, et notamment autour de ces savoir-faire, de ces métiers qui ont été collectés pour la plupart dans la deuxième moitié du XXe siècle, au moment où tous ces ateliers, ces artisans cessaient leurs activités. Et on s'est rendu compte que parmi tous ces savoir-faire que le musée a cherché à documenter dans ces décennies-là, il y a énormément de métiers qui sont liés à la transformation de l'or, effectivement, les doreurs sur divers matériaux, sur métal, sur bois, sur verre, les brodeuses d'or, les fabricants de fleurs artificielles, les fabricants de couleurs aussi, tout simplement. Comment est-ce qu'on arrive à fabriquer de l'or ou de l'illusion de l'or à partir du bronze en particulier. Donc c'est vraiment tous ces, là encore, cette dimension profondément humaine de ces savoir-faire, de ces connaissances, de ces prodiges réalisés par des artisans souvent très modestes, mais qui ont eu ce génie inventif pour transformer ce matériau.
Est-ce qu'on a une idée, je vais m'adresser à l'historienne plutôt, est-ce qu'on a une idée des débuts de la métallurgie de l'or? Ça remonte à la plus haute antiquité ou...
Les traces archéologiques les plus anciennes à ma connaissance à ce jour sont autour de 8000 avant Jésus-Christ, autour de la mer Noire, en Bulgarie, jusqu'à preuve de nouvelles découvertes.
Oui, ça, c'est toujours comme ça. Hein. C'est toujours comme ça. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé, là comme...
Essentiellement des bijoux. Et des éléments de lingots d'or, hein, parce que c'est la manière de conserver l'or et de circuler, et de garder ce trésor d'une ville, d'une famille, d'une communauté, etc. Passe souvent par le lingot d'or, qui est évoqué dans la première partie, parce que l'or est très dense, et on peut avoir un volume d'or très important dans un petit volume mathématique, mais on a une grande quantité d'or dans un petit volume, donc c'est assez commode aussi.
Oui, parce qu'il y a une belle collection de lingots, là, oui. Un peu de toutes les formes, c'est étonnant d'ailleurs, ces lingots qui ressemblent un peu à une flaque, sans véritable forme.
Si, quand même, c'est plus travaillé que ça, puisque ce sont des lingots qui sont coulés sur des plaques, mm-hmm. et qui sont circulaires, mais qui correspondent à des poids particuliers. Mm-hmm. Donc non, c'est pas n'importe quoi, ce sont des mesures en même temps.
D'accord.
Les lingots ont un poids déterminé, c'est important, parce que l'or a toujours eu quand même une valeur exceptionnelle.
Oui, parce que je pensais au lingot chinois qui ressemble un peu au nôtre, là, qui est dans votre exposition.
Un petit parallélépipède, hein, oui.
Un petit parallélépipède, là.
Et qui a son
donc
poids.
Je me disais, bon, alors, est-ce que par ailleurs, on a fait des lingots un peu comme ça pouvait.
Les formes sont différentes, mais elles ont toutes une identification à la fois de dimension et de poids. C'est mm-hmm. essentiellement du poids. L'or, c'est au poids.
Oui, bien sûr, oui. On va faire une petite, encore une petite interruption musicale, avec une chanson qui n'a pas été éditée, une chanson de Jacques Brel que j'ai retrouvée, peu connue, et qui s'appelle La Toison d'or.
Ah oui.
Et vous, conquistador, navigateurs anciens, hollandais téméraires et corsaires. Malouin, cherchant des Amériques, vous ne cherchâtes rien que l'aventure de la toison d'or. Et vous, les philosophes, vous, sages d'Orient, alchimistes pointus, et sorciers d'à présent, en cherchant la sagesse, vous n'avez rien cherché que les secrets de la toison d'or. empereurs, rois telés ou sereins, vous les vrais Charlemagne, vous les faux Charles Quint. En cherchant la puissance, vous ne cherchâtes rien que les reflets de la toison d'or. Et vous, preux chevaliers, assoiffés de grandeur, vous chasseurs de Saint Graal, d'oriflamme, d'honneur, cherchant la victoire, vous ne cherchâtes rien que le panache de la toison d'or. Et vous, tous les poètes, les rêveurs mal debout, discoureurs de l'amour pour des cieux andalous, en écoutant vos muses, n'avez rien chanté d'autre que le vieux rêve de la toison d'or. Et vous, gens d'aujourd'hui, d'aujourd'hui, de demain, vous balayeurs d'idoles, de dieux et de malins, cherchant la vérité, vous ne recherchez rien que la clarté de la toison d'or.
Alors donc, voilà, très belle chanson de Brel qui est très peu connue, qui n'a été assez peu enregistrée. Je crois qu'il n'existe qu'un seul enregistrement. Elle méritait d'être écoutée.
Oui, c'est une découverte extraordinaire. Si on l'avait connue, on l'aurait peut-être mis dans l'exposition. En même temps qu'on regarde ce vase, ce cratère du Louvre qui nous a été prêté pour illustrer ce mythe de la toison d'or. Et on représente, et sur ce cratère est représenté Jason revenant de Colchide, c'est-à-dire de la Géorgie actuelle, avec la toison d'or qu'il est allé voler pour à la fois retrouver son trône, donc toujours une motivation de recherche de pouvoir, de braver les dangers, donc chercher cette toison d'or dans un jardin gardé par des dragons sous la supervision de Zeus, et grâce à l'amour d'une femme. Donc on a tout le cadre de ce que l'homme est capable de faire pour l'or. On a cette illustration comme celle de Midas sur les dangers, les folies qu'on est capable de faire pour de l'or, et qui revient, et cet or est tout simplement une peau d'agneau sur lequel se sont accrochées des paillettes d'or. C'est une technique toute simple des premiers orpailleurs, et c'est justement cette représentation très triviale qui renvoie à cette mythologie fabuleuse. Et la chanson de Jacques Brel est magnifique sur cette représentation. Bon, la prochaine fois, merci beaucoup.
Oui, c'est vraiment dommage qu'elle ne soit pas plus,
elle n'est plus pas connue,
mais plus publiée. Je ne sais pas pour quelle raison elle est restée comme ça, un peu confidentielle. Moi, je l'ai trouvée totalement par hasard, et je l'ai trouvée merveilleusement adaptée à cette exposition pour vous offrir cette virgule musicale. Alors, en même temps, avec cet or travaillé, avec ces artisans, avec les lingots dont nous parlions il y a un instant, on arrive petit à petit dans le côté, on arrive dans le côté sombre, avant de parler du côté symbolique, du côté sombre de l'or, puisqu'en fait cet or va susciter la spéculation, puisque c'est l'élément principal de la spéculation dès l'Antiquité, peut-être, hein, en jouant, y compris sur le bimétallisme, sur l'échange avec l'argent, les différences de prix de l'or, que ce soit dans telle ou telle région, et les échanges vont permettre à certains déjà de s'enrichir. Et donc cet enrichissement marque par certains côtés un peu l'aspect sombre de l'or, puisque c'est, je crois que c'est un de vos fils conducteurs dans votre exposition également.
Dans cette partie-là, oui, bien sûr. Ce qu'on veut absolument affirmer du début à la fin, c'est que non seulement tout ce qui brille n'est pas or, et même si ça ne brille pas et que c'est de l'or, ça n'est pas forcément une piste à ouvrir dans la vie, dans les espoirs de la vie. Donc on montre certains aspects de cette aliénation, précisément, en évoquant à la fois, outre la mythologie, mais aussi ce que les hommes ont mis en place pour exploiter cet or, avec une vidéo sur la mine de Las Medulas, qui est une mine ouverte au 1er siècle après Jésus-Christ, décrite par Pline, d'ailleurs, par Pline l'Ancien, et qui est disproportionnée. On fait exploser une montagne dans l'Espagne pour en deux ans, en retirer 40 tonnes d'or, ce qui n'est rien du tout à l'échelle des exploitations contemporaines qui se chiffrent en milliers de tonnes d'or, et qui a détruit complètement un paysage. On montre une autre vidéo pour justement évoquer la question de la recherche de l'or, des trésors, c'est-à-dire de ceux qui sont capables de voler et de chercher de l'or dans des lieux, grâce à d'ailleurs un détecteur à métaux ou des choses comme ça, et qui vont jusqu'à faire de la prison, mais qui ressortent et qui s'y remettent. Et puis surtout, l'exploitation de l'or au quotidien. Aujourd'hui, la reprise de l'exploitation de certaines mines d'or, on parle essentiellement de la Guyane, et on a des exemples à la fois anciens, avec un objet du MUCEM qui est un diorama qui montre une exploitation d'un placer d'or. Alors là, il s'agit des orpailleurs dans les rivières, avec des outils, mais aussi un témoignage d'artistes contemporains qui viennent à leur manière sensibiliser et critiquer en mettant en évidence cette dimension de manière plus qu'anecdotique, enfin une dénonciation, je dirais.
Oui, les artistes contemporains sont sensibles à tous ces aspects liés au matériau or, et en particulier à ces aspects noirs que vous venez de souligner. On a dans l'exposition, par exemple, des menottes réalisées par Sylvie Fleury, comme si c'était des objets parfaitement luxueux, et qui, pour nous, rend bien compte de cette idée d'aliénation. De même que ce grand collier de Thomas Hirschhorn, dans un papier très clinquant, très, très doré, qui est une sorte de bijou démesuré, avec à l'effigie de la marque de la chaîne de télévision CNN, qui parle de toutes ces formes d'aliénation contemporaine. Donc on rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la vanité, c'est-à-dire le fait que l'or est une sorte de miroir aux alouettes. C'est fascinant, ça brille, ça donne très envie d'en avoir plein les poches, mais il y a aussi ce côté aliénant qui est inévitablement lié à ce matériau. Et puis la dimension écologique est également une dimension largement souligné par les artistes. Je pense en particulier à cette dinette pour chercheurs d'or réalisée par Martina Balea, où elle a gravé sur chacun des objets de ce service à café des mots qui renvoient à toute la chimie qui est aujourd'hui utilisée pour exploiter l'or et qui évoque ce drame non seulement humain mais aussi écologique que constitue la recherche de l'or à tout prix dans les exploitations contemporaines.
Oui, donc on est encore dans la violence de ce produit. Moi, je voulais à propos de d'aspect démonstratif de l'or, je vais faire écouter juste un tout petit morceau d'un groupe marseillais qui est très connu, qui s'appelle IAM.
Je danse le Mia. Je danse le Mia. Je danse le Mia, pas de pacotille, chemise ouverte, chaîne en or qui brille. Des gestes lents, ils prenaient leur temps pour enchaîner les passes qu'ils avaient élaborées dans leur quartier. C'était vraiment trop beau, un mec assuré, tout le monde criait. La piste s'enflammait et tous les yeux convergeaient. Les différences effacées et des rires éclatés. Beaucoup disaient que nos soirées étaient sauvages et qu'il fallait entrer avec une batte ou une hache. Foutaise, c'était les ragots des jaloux. Et quoi qu'on en dise, nous on s'amusait beaucoup. Aujourd'hui encore, on peut entendre des filles dire
aïe aïe, 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 aïe. Je danse le Mia.
Je danse le Mia.
J'ai poussé le pionnier à fond pour danser le Mia.
Je danse le Mia.
Voilà, chemise ouverte, chaîne en or qui brille.
Alors, cet extrait résonne doublement pour nous. D'une part, parce que le MUCEM a aussi beaucoup enquêté sur le rap, le graphe, le hip-hop dans ces dernières années, grâce à une chercheuse qui s'appelle Claire Calogiroux, et qu'on a des collections très importantes, notamment liées au groupe IAM dans nos collections du MUCEM, mais aussi dans l'exposition Or. On a voulu souligner le fait que les milieux du rap ont mis en avant ce côté clinquant de l'or, et enfin, comme c'est parfaitement dit dans l'extrait qu'on vient d'entendre, et on a notamment un collier de rappeurs, alors qui a l'air en or massif, mais qui n'est que de la pacotille. Et ce qui est très intéressant, c'est que la notion même de bling bling, dont on parle beaucoup aujourd'hui, vient des milieux du rap qui ont mis en avant ce côté clinquant, riche, qu'on cherche à mettre en avant, alors même que on comprend bien assez vite que tout ça c'est que de l'apparence. Mais cette dimension symbolique de l'or a été très, très vite appropriée par les milieux du hip-hop et du rap pour se parer d'un matériau particulièrement riche et qui donne toute sa valeur, toute sa légitimité à ceux qui le portent.
Alors vous m'avez tendu la perche pour l'aspect symbolique. On va donc parler de ce troisième thème d'exposition, l'or comme symbole de plein de choses, de pouvoir politique, utilisé dans les religions, utilisé dans le paraître, on vient de le voir. Hein, c'est l'expression de quelque chose de supérieur qui est développé dans votre exposition.
C'est un thème qui est lié d'abord à l'éternité, parce que tout simplement, vous voyez que l'or est pérenne. L'or est un matériau indestructible, en fait. Et on peut découvrir des objets ou des pépites ou des minéraux les plus anciens. Les pépites, c'est de la formation géologique. Et l'aspect de l'or et sa forme et sa consistance, à moins de le chauffer, n'évoluera pas. Donc, il va garder cet éclat de manière pérenne du moment de sa découverte jusqu'à toujours. Donc, de manière très naturelle, toutes les manifestations spirituelles ou de religion se sont adressées aux divinités, au pluriel ou au singulier, en les parant d'or, parce que c'est un symbole d'éternité et que l'éternité, c'est effectivement l'inatteignable, c'est l'au-delà, c'est l'inconnu aussi. Donc, il se trouve que dans toutes les religions, on n'a pas traité de tout, mais on a surtout parlé de la Méditerranée, effectivement. Mais dans toutes les religions, on a cette visibilité du divin. Les objets du culte sont recouverts d'or ou brodés d'or un objet d'or vient conclure et pérenniser quelque chose d'autre, par exemple dans un ensemble funéraire. Vous pouvez avoir des objets qui sont ceux des personnes qui sont ensevelies, mais on va rajouter un viatique en or qui va assurer à la personne défunte son passage dans l'au-delà. Donc on a toujours cette dimension liée à la divinité.
Oui, vous avez particulièrement quelques objets, des masques, des pièces qui permettaient de couvrir les yeux des gens décédés pour leur permettre justement
ce que j'évoquais, des couvre-bouches et des couvre-yeux qui vont évidemment éviter que le souffle ne se transmette ou qu'on puisse transmettre ce souffle en les posant sur les orifices du défunt, la bouche et les yeux. Et là, il s'agit des tombeaux de Péla, de la Grèce du Nord, qui sont particulièrement révélateurs et qui font partie des collections dont on est très heureux d'avoir obtenu le prêt, un peu exceptionnel.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que sur le caractère éternel un peu de l'or, c'est vrai que les pépites, finalement, il me semble qu'elles ont déjà la teinte du métal qui est ensuite travaillé.
C'est, oui, c'est le matériau originel, naturel, c'est géologique. Ça. C'est un matériau géologique qui est...
Est-ce que c'est le seul, je me pose la question comme ça, le seul matériau
qui ne se transforme pas?
Ouais, je ne sais pas, j'en sais rien. C'est une idée comme ça. Je sais.
Il y a les pierres, mais, oui.
Oui, mais c'est pas pareil.
Mais pas les métaux.
Oui, c'est pas les métaux. Je pense que dans le domaine de la métallurgie, non, parce que finalement, les minerais, c'est pas du tout la même chose, quoi. Les minerais, il faut les extraire de quelque chose. Alors que là, finalement, les pépites qu'on va récupérer dans les placères, par exemple, sont déjà.
Oui, on a des minerais d'argent aussi. Hein,
oui.
Mais c'est surtout l'argent se noircit, c'est le fait qu'il reste stable d'un bout à l'autre, depuis l'objet géologique jusqu'à l'objet façonné, il reste stable dans son éclat, il n'est jamais terni.
Ouais, ouais. La religion, le pouvoir, alors en quoi, c'est un peu la même chose, en quoi l'or peut-il aider, symboliser le pouvoir?
Bah, c'est assez naturel quand on se décrit comme un monarque qui détient son pouvoir de la divinité, comme c'était le cas dans l'Ancien Régime, bah, c'est assez naturel de s'attribuer les habits du divin. Et chez quelqu'un comme Louis XIV, par exemple, cette importance symbolique de l'or est directement liée à cette association d'idées entre le divin et le pouvoir politique. Mais c'est une dimension symbolique qui se retrouve encore très largement aujourd'hui. On a dans l'exposition une œuvre d'une artiste, Tania Moureau, qui a fait un film sur les ors de la République. Alors c'est un film un peu difficile à regarder parce qu'il est filmé en accéléré, un peu comme si elle avait voulu traquer tous les ors qui se trouvent, qui recouvrent l'architecture des lieux de pouvoir. Et on a l'impression d'avoir dans ce film en accéléré une sorte de résumé de tout ce qu'on peut voir de dorures dans les palais de la République. Donc c'est assez intéressant de voir qu'il y a une continuité dans l'usage de l'or comme attribut du pouvoir, non pas religieux, mais du pouvoir temporel, du pouvoir politique, qui s'attribue cette dimension symbolique qui vient effectivement de la représentation divine.
Oui, d'ailleurs, les signes du pouvoir de Louis XIV sont tous en or, la couronne, le sceptre, etc. Ce sont des objets en or qui rappellent effectivement la divinité. Alors donc, l'or symbolique, religion, pouvoir, paraître, on en a déjà parlé. On va maintenant peut-être parler un petit peu de l'exposition, du travail sur votre exposition, parce que j'aime bien quand même que soit mis en lumière votre travail avant d'arriver au beau jour où on ouvre les portes et on a quelque chose de cohérent, d'intéressant, de prenant. Donc, une exposition avec de très belles pièces, vous allez peut-être nous en dire quelques mots, qui viennent d'un peu partout, vous avez chassé les pièces un peu partout. Et donc, en parler un peu à nos auditeurs, je pense que ça les intéressera.
Effectivement, pour en tout cas les objets de la période antique, on a fait un peu le tour des pays autour de la mer Noire, puisque c'est le berceau, la Colchide, la Géorgie d'aujourd'hui, c'est le berceau des mines d'or de l'Antiquité. On a connaissance de ces mines depuis Hérodote, on a des textes anciens qui racontent l'exploitation de ces mines d'or et aussi les légendes qui vont avec des mots simples que l'on utilise aujourd'hui, Crésus, Pactole, ce sont des noms de personnes ou de lieux qui existent dans l'Antiquité et où l'or circule dans les fleuves ou bien représente des monarques à la tête de pays d'or. Donc on s'est adressé à ces pays, mais c'est une réalité. Ils en ont des collections extraordinaires. Et donc on a fait les déplacements nécessaires, on a rencontré nos collègues chercheurs et directeurs de musée, on a parlé de notre projet, je pense qu'on a réussi à les persuader de l'intérêt de prêts, pas toujours facile à négocier, pas toujours de trésors dans leur propre pays, que ce soit en Géorgie, à Tbilissi, au musée national de Tbilissi ou au musée national d'histoire de Bucarest. Les salles dans lesquelles sont conservés ces objets d'or et qui sont en grande quantité s'appellent les salles du trésor. Donc ils savent eux-mêmes que c'est extrêmement rare et précieux. Et bien sûr, Ils sont heureux qu'on les sollicite, mais avec beaucoup de conditions, de garanties, de sérieux intellectuels, en dehors de toutes les garanties, évidemment, formelles qu'on peut donner, la qualité des transports, la renommée du MUCEM, enfin, toutes sortes de critères de base qui passent par des conventions. Mais c'est surtout persuader de la raison. Pourquoi ferait-on partir le trésor de Bucarest ou celui de Tbilissi pour aller dans une exposition sur l'or? D'exposition sur l'or, il y en a des quantités. Il y en a partout, des quantités, avec beaucoup de pièces. Il y a beaucoup de pièces en or, de tout ordre, on peut en trouver. Pourquoi aller déranger, bousculer ces trésors au fin fond de la mer Noire? Eh bien, parce que ça a un sens. Ça a un sens historique, ça a un sens particulier. C'est un or contextualisé. Ce ne sont pas des objets en or anodins, anonymes. Ils font partie d'une histoire. Et c'est cette histoire que nous avons souhaité présenter. C'est les objets, les boucles d'oreilles de Géorgie n'ont pas le même sens que des boucles d'oreilles dont on ne sait pas où elles ont été découvertes, même si elles sont antiques et dans des tombes de la Grèce antique, enfin la Grèce du monde grec antique en Méditerranée. Donc oui, persuader nos collègues, on en est très heureux. Donc ça fait la richesse aussi profonde de ces choix.
Et ces choix, est-ce qu'ils ont été compliqués? Parce que je pense que vous étiez quatre commissaires. Est-ce que les choses se sont passées sans difficulté, avec discussion, je suppose quand même, parce que c'est un peu normal qu'on en discute. Et puis accessoirement, bien sûr, quelle pièce exceptionnelle. Je crois qu'il y en a quand même quelques-unes qui sortent de l'ordinaire dans votre exposition. Donc voilà, un peu ces deux points.
Je vais terminer avec l'Antiquité, si tu es d'accord. Non, franchement, il n'y a pas eu de difficulté de choix, d'identification des œuvres qu'on souhaitait ensemble présenter. On était tout à fait d'accord sur les typologies d'œuvres et la zone géographique, parce qu'elle avait un sens, je parle toujours de l'Antiquité, elle avait un sens profond. Et donc, de manière très naturelle, le consensus a tourné autour de la Roumanie, Géorgie, et Grèce, essentiellement pour les pays extérieurs à la France, d'autres exceptions. Quand on parle de la même chose, le consensus vient facilement, il n'y a pas de souci à cet égard. Des pièces exceptionnelles, il y en a plusieurs. Effectivement, les pièces de Géorgie sont très exceptionnelles. Je pense en particulier à deux statuettes, l'une en fer, l'autre en bronze, qui proviennent d'un ensemble de 12 statuettes découvertes dans une ville sanctuaire de la Géorgie qui s'appelle Vani, dont on ne connaît pas encore tout, qui est une ville grecque du 5e siècle avant Jésus-Christ. Et dans cette zone sacrée, dans une zone sacrée, on a découvert en fouille un certain nombre de ces petites statuettes qui font 15 cm de haut et qui étaient en fer et en bronze, recouvertes de bijoux d'or, des torques et des bracelets ou des boucles d'oreilles, enveloppées dans des linceuls qui figuraient sur elles-mêmes, des petits bijoux d'or qui étaient des bijoux de linceul, et inhumées. Donc on ne connaît pas, c'est le seul endroit du monde antique où on a une pratique de ce genre. On suppose qu'il s'agit de quelque chose de très particulier, peut-être d'hommes héroïsés ou sanctifiés dans la Grèce antique. Et c'est justement les petits objets en or qui sont rajoutés sur ces statuettes traditionnelles, on en a beaucoup, des statuettes en fer et en bronze, qui figurent leur côté divin, l'aspect de la divinité. Donc c'est une recherche qui n'est pas encore finalisée, qui est en cours, qui est donc offerte aussi au grand public, mais aussi à la recherche. Et donc on a des objets exceptionnels, c'était assez difficile de les obtenir. Ces objets sont dans les vitrines du trésor. J'ai réussi à obtenir, enfin nous avons réussi, pardon, à obtenir sortir des réserves des objets du même type qui n'étaient pas exposés parce qu'ils n'étaient pas d'aussi belle qualité, mais qui avaient autant de sens. Donc je pense que c'est quelque chose de difficile, réussi et qui a beaucoup de sens surtout.
Oui.
Peut-être dans les pièces exceptionnelles, Myriam en a parlé tout à l'heure, mais on a des prêts vraiment exceptionnels du Musée du Louvre qui a accepté une collaboration particulière autour de cette exposition, parce que je crois que nos collègues du Louvre ont été séduits par ce projet, par la dimension aussi scientifique qu'on a pu apporter sur ce regard transversal sur l'or. Donc il y a vraiment, je crois, près d'une centaine de prêts du Louvre dans cette exposition, ce qui n'est pas rien, ce qui est un vrai engagement de la part de ce musée. Et on a aussi des très belles pièces du Centre Pompidou, avec des œuvres d'artistes modernes très, très importants, comme Zadkine, comme Victor Bronner, comme Man Ray ou Picabia, qui sont des œuvres pas seulement qu'on a choisies parce qu'il y a 3 grammes d'or ici ou là, mais vraiment parce qu'elles venaient avec un sens précis dans le propos qui était le nôtre, autour de cette idée de la transformation du matériau et de l'alchimie qui peut être associée à ce matériau, et puis de sa dimension symbolique qu'on a évoquée également précédemment.
Oui, là, vous avez devancé la question que j'allais vous poser. Non, mais c'est bien. Et alors, mais j'en avais une subsidiaire quand même. Est-ce que certains artistes ont travaillé spécifiquement pour l'exposition ?
Oui, alors ça, c'est l'autre aspect, je dirais. Nos collègues historiens et archéologues ont tout ce travail bien décrit par Myriam de discussion, de la nécessité d'emporter la conviction de collègues d'autres pays. Pour nous, côté art contemporain, la circulation des œuvres se fait peut-être de manière plus naturelle entre institutions, mais le gros des discussions vient avec le travail qu'on peut faire avec certains artistes. Et effectivement, on a engagé plusieurs productions d'œuvres spécifiquement pour cette exposition. On a déjà évoqué tout à l'heure cette commande réalisée par Gaetan & Miles autour du Crédit Municipal, mais on a aussi une œuvre réalisée spécifiquement pour l'exposition par Jérémy Setton, qui est un autre artiste marseillais qui travaille beaucoup sur la lumière, sur la manière dont la lumière influence notre perception des œuvres, et qui a bien voulu lui aussi jouer le jeu de ce travail sur ce matériau or qu'il nous fait percevoir d'une manière, je dirais, un peu énigmatique, pour bien nous faire toucher du doigt cette difficulté qu'on a à discerner ce qui est du vrai or et du faux or. Cette notion de vrai or, faux or est évidemment une notion très, très essentielle dans notre exposition. Et puis d'autres artistes comme Olivier Lounissi ou Stéphanie Saadé ont bien voulu jouer le jeu de cette discussion avec nous et de ce travail, non seulement de création ou de recréation d'une de leurs œuvres spécifiquement pour cette exposition, mais au-delà de ça, de bien comprendre à quel endroit ça pouvait avoir du sens dans notre propos, dans le parcours de l'exposition. Et évidemment, toutes ces discussions sont très importantes pour nous. Il ne s'agit pas d'aller chercher des œuvres, encore une fois, juste parce qu'elles sont dorées, mais de bien comprendre quelle est la démarche de l'artiste et comment cette démarche artistique peut s'intégrer dans un propos qui a été celui qu'on a développé dans le parcours de l'exposition.
Oui, il y a quelques belles, très très belles œuvres, un peu monumentales. Je pense à ce couple, c'est Adam et Ève.
Oui.
Alors, qui sont resplendissants au milieu de cette salle.
Je crois que ça, c'est une des choses qui nous a beaucoup intéressés dans ce projet, c'est qu'on a des petits bijoux qui mesurent parfois moins d'un centimètre, et je pense en particulier au tube de trichoptère d'Hubert Duprat, qui a donné à ces insectes, les trichoptères, des pépites d'or pour qu'ils fassent leur habitat avec ces matières précieuses. Et puis, on va jusqu'à des œuvres très monumentales comme celle de Lisa Lou, dont vous parlez, ou de Johan Cretten, qui a réalisé aussi des grandes sculptures monumentales. Et donc, là aussi, on retrouve une ambivalence de l'or, c'est-à-dire comment est-ce qu'on est fasciné par quelque chose de tout petit ou au contraire par quelque chose d'extrêmement puissant, monumental et qui en impose. Donc c'était une des dimensions qui nous intéressait beaucoup dans ce sujet.
Une petite interruption musicale. Voilà, c'était donc un petit extrait de l'Or du Rhin de Wagner, où on entend donc les percussions qui se font sur les enclumes. En fait, c'est la descente vers Nibelheim, c'est-à-dire ce royaume souterrain là, où a été volé l'anneau d'or, et donc la descente pour aller essayer de récupérer cet anneau d'or. Voilà, donc c'est un morceau qui est assez extraordinaire. On va évoquer pour terminer, les prochaines expositions. Alors, qu'est-ce que vous avez dans les tuyaux, Mucem?
Alors, on doit ouvrir une exposition Ai Weiwei qui sera ouverte au public le 20 juin prochain et qui est un regard de ce grand artiste chinois qui vit en Europe depuis longtemps, qui s'est beaucoup intéressé à la question du rapport à l'histoire, à la construction de l'identité par rapport à l'histoire, et qui vient porter son regard, je dirais presque extérieur, au monde méditerranéen sur ces civilisations de l'Europe et de la Méditerranée à travers une grande exposition. Donc qui lui est consacrée à partir du 20 juin. Et l'exposition suivante, donc, qui viendra remplacer l'exposition Or sur le Grand Plateau et qui ouvrira à la fin du mois d'octobre, sera consacrée à Georges-Henri Rivière, qui est peut-être un personnage méconnu du grand public, mais qui est un personnage vraiment fascinant et fondateur pour l'histoire de notre musée, puisqu'il a été le créateur du Musée national des arts et traditions populaires, qui est l'ancêtre direct de ce qu'est le MUCEM aujourd'hui, et un personnage vraiment très intéressant dans toutes les connexions qu'il a pu avoir avec le monde de la musique, avec les avant-gardes artistiques, et qui a été aussi un très grand muséographe, quelqu'un qui a été très fondateur dans l'histoire des musées, non seulement en France, mais en Europe et dans le monde, dans la deuxième moitié du XXe siècle. Voilà, donc un hommage à notre père spirituel, d'une certaine manière, mais qui va bien au-delà de cette dimension-là.
Eh bien, c'est bien, on aura donc l'occasion de faire revenir. Myriam, vous aviez quelque chose à ajouter?
Oui, je voulais dire que dans l'exposition permanente Connectivité que nous avons ouverte en novembre dernier, nous procédons à quelques rotations d'œuvres contemporaines, dans la partie contemporaine, et nous mettons en place une programmation vidéo d'un certain nombre d'artistes, de vidéastes, qui vont parler également des villes, des mégapoles et des métropoles que nous allons renouveler à partir de la rentrée. Donc, ce n'est pas parce que c'est une exposition permanente qu'une fois qu'on l'a vue, on pense qu'on l'a vue. Non, on n'a pas vu parce qu'on a des renouvellements très réguliers. Donc venez voir Connectivité en plus à chaque fois que vous venez au MUCEM.
Et je sais, parce que d'ailleurs, quand je vous avais invité, on en avait parlé, on s'était dit que peut-être on ferait le point dans le courant de l'année.
Avec plaisir.
Voilà. Donc écoutez, je vous remercie infiniment de nous avoir parlé de cette exposition. L'émission Mare Nostrum, en tout cas, s'interrompt pour les vacances. Donc, c'est la dernière émission de la saison, comme on dit, pour les séries télévisées. Nous reprendrons donc à la troisième semaine de septembre, avec une émission qui portera sur le mémorial d'Émile. Oui. Voilà, donc qu'on enregistrera vraisemblablement avant. Je vous rappelle que vous pouvez nous écouter sur 88.1 le jeudi à 12h30, le samedi à 15h. Et vous pouvez également aller sur Radio Zinzinex et vous pouvez télécharger, réécouter nos émissions et les conserver si vous trouvez qu'elles présentent un intérêt. Voilà, au revoir à tout le monde.
Tonton Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, il en a le queue cousu, la famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. À nous ses petits neveux, on nous disait, il s'est taillé en Amérique du Sud, sans un pélo, tout débraillé. Mes enfants, que la Vierge nous patafiole, plutôt que de revoir un jour sa fiole. À Buenos Aires, il faisait la traite d'on ne sait quel produit. Il est revenu fortune faite, plein de cadeaux jolis. Une poupée qui fait pipi, qui se mouche, et qui a des seins qui se gonflent avec la bouche. Tonton Cristobal est revenu, des vaisseaux, des lingots, du lanel que cousu, la famille hypocrite crie, vive le barbu. Tonton Cristobal est revenu. Depuis que tonton est là, on fume de la marijuana, on fout des coups de pétard partout, nos parents mouffent pas. Le matin après le chocolat, on chique et on crache à six pas comme au Mexique.